FM.
Savourez nos différences.
Pop Flash, l'émission pop culture, jeux vidéo, manga, films, séries, animations, jeux de rôle et internet. Présenté par Mel et J.A. un mercredi sur deux sur Radio G.
Sur Radio G, vous êtes sur Pop Flash. Je suis J.R. et je serai encore une fois votre présentateur pour ce nouvel épisode de Pop Flash. Et comme d'habitude, un épisode de Pop Flash n'est pas vraiment un épisode de Pop Flash. Et pour qu'il soit un véritable épisode de Pop Flash, je dois être accompagné de Mel. Coucou Mel, comment tu vas ?
Bah coucou, bah ça va très bien. Et toi, comment ça va ?
Bah écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, épisode de Pop Flash un peu particulier dans le sens où, pour une fois, on aura tous les deux des trucs à dire sur à peu près toutes les sessions. Et du coup, on va tout de suite commencer, comme d'habitude, par Game Pop. Où aujourd'hui, gros sujet, mine de rien, vu qu'on va parler de ce qui s'est passé la dernière fois du Steam Next Fest. Et du coup, on parlera des démos qu'on a particulièrement aimé. On en a trois. Et du coup, on va chacun en parler d'une, et moi j'en parlerai d'une deuxième, mais très très rapidement. Après cela, on va tout de suite partir dans Qu'est-ce qu'on lit, et dans Qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui, on va tous les deux présenter un livre. Un livre qu'on a tous les deux beaucoup aimé, et un livre où ça a été un peu plus mitigé, mais ça vous le découvrirez bien assez tôt. Et ensuite, on parlera tout simplement de Young Justice dans la chronique Pop and Clap. Et pour terminer le tout, on parlera tout simplement de lancer les dés. Et aujourd'hui, je vous parlerai d'un JDR que je ne connais pas trop, mais dans lequel que j'ai pu découvrir et que j'aime quand même particulièrement. C'est le JDR Monster of the Week. Mais avant que tout cela commence, on lance évidemment notre premier générique. On se retrouve juste après le générique. Et le générique, c'est le générique de Game Pop. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Actu et test jeux vidéo, c'est Game Pop avec Mel.
Aujourd'hui dans Game Pop, on laisse un peu de côté les dramas et les news pour se concentrer sur du jeu vidéo. Et pour cette session de test, comme l'a dit JR, il est de la partie. Grâce au Steam Next Fest qui s'est tenu du 24 février au 3 mars 2025, on a pu essayer plusieurs jeux et on vous en a sélectionné deux titres prometteurs et un autre jeu. Pour commencer, Game of Thrones King's Road. Ce nouvel RPG d'action basé sur l'univers de Game of Thrones a attiré mon attention et après 4 heures de jeu, je peux vous dire que j'ai adoré l'expérience. Dès la création du personnage, on sent que le jeu a du potentiel. Pour une démo, l'éditeur est déjà bien développé, même s'il reste quelques petites améliorations à apporter. Côté gameplay, vous avez le choix entre trois classes, assassin, chevalier et mercenaire. J'ai testé l'assassin et le chevalier. Et honnêtement, l'assassin m'a donné du fil à retordre au début. Les combats étaient assez difficiles à prendre en main, notamment dans l'introduction. En revanche, avec le chevalier, tout était beaucoup plus fluide. Mais comme je suis têtue, j'ai décidé de retenter l'expérience avec l'assassin et j'ai bien fait. Une fois passé cette phase d'apprentissage, les combats deviennent dynamiques, stylés et ultra satisfaisants. Côté scénario, King's Road nous plonge dans un récit alternatif de l'univers de Game of Thrones. On y incarne le ou la bâtarde de la maison Tyr, une famille du Nord au domaine modeste. Aux côtés de Jon Snow et d'autres personnages bien connus, notre mission est d'empêcher l'hiver et les marcheurs blancs d'anéantir le monde. Petit détail à noter, le jeu ne suit pas totalement la série. On retrouve des liens avec l'histoire principale et les personnages, mais il s'agit plutôt d'une réinterprétation. N'ayant pas lu les livres, je ne peux pas dire si le jeu est néanmoins inspiré davantage, mais honnêtement, j'aime bien cette approche, ça permet aux fans de découvrir une nouvelle version de cet univers culte tout en restant fidèle à l'essence de la saga. Graphiquement, King's Road est beau, même s'il y a encore quelques détails qui méritent d'être améliorés, notamment les textures des cheveux. Par contre, grosse frustration, et j'insiste sur le grosse frustration, en explorant le panneau des options, il y a une section aux relations avec les personnages, mais elle n'était pas encore disponible, probablement parce que c'est une démo. Mais ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on pourra nouer des amitiés, avoir des ennemis, former des alliances stratégiques ou mieux encore, des romances ? J'espère que ce sera le cas, parce que laissez-moi romancer Jon Snow s'il vous plaît ! J'aurais aimé y jouer encore plus, mais de ce que j'ai pu avoir, la démo offre facilement une dizaine d'heures de jeu. Ce qui est plutôt énorme, on va pas se mentir, pour une phase de test. Bref, Game of Thrones King's Road me semble très prometteur et je vais suivre son évolution de très très près. Et toi JR, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Eh bien, j'y ai joué un peu moins que toi, mais écoute, j'ai fait principalement... l'introduction, si je ne me trompe
oui,
pas.
C'est ça.
Et l'introduction, alors visiblement c'est pas le cas, mais un truc moi qui m'avait fait peur, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de QTE. Chose par contre que j'ai beaucoup apprécié, c'est déjà les graphismes qui sont très beaux, le fait de replonger dans un univers que j'aime beaucoup, pour être franc. Et la dernière chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est les combats, parce que les combats, peut-être que je jouais mal, sûrement que je jouais mal, mais j'ai cru que j'allais claqué. Ce qui fait que j'ai un peu serré les fesses, petit peu de stress, mais tout s'est bien passé au final. Très bonne introduction, je trouve, au marchand blanc et à la menace qui pèse sur le monde. Et que du coup, bah, franchement, très très bonne impression. Ça fait partie des trois démos qui personnellement, que j'ai trouvé vraiment intéressantes et avec qui je vais attendre le jeu. C'est pas mon plus gros coup de cœur. Mais ça reste un jeu qui vraiment me donne envie, tout simplement. Voilà.
Ouais, moi, je pense que ça va être un de mes coups de cœur. Effectivement, sur l'introduction, il y a beaucoup de QTE, notamment avec un peu les cinématiques, etc. Où d'un coup, on te dit appuie sur X, appuie sur A, ou pour ceux qui sont au clavier souris, appuie sur Z, etc. Mais après cette phase d'introduction et qui sert en fait, on va pas se mentir, de tuto un petit peu, t'en as plus autant.
Okay.
En tout cas.
Je veux qu'il y en a encore, mais après encore une fois,
oui.
L'équilibre c'est pas le souci, c'est juste qu'il faut pas que ça remplace tout le truc.
Oui,
en tout cas, ça reste un jeu qui personnellement j'attends beaucoup. Je me demande s'il sera pas free to play quand même.
Alors de ce que j'ai compris, il sera free to play, mais c'est sur de ce que j'ai compris, il sera free to play si je dis pas de bêtises, mais surtout il sera aussi disponible sur Android. Et iOS peut-être aussi.
Donc ce sera genre de jeu où tu peux à la fois jouer sur ton téléphone et à la fois sur PC et tout ça.
Ouais, c'est ça.
J'avoue que ce genre de jeu me fait toujours un peu peur. Après, je sais que toi,
moi,
tu joues notamment
non.
à Genshin Impact.
Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a plein. En fait, ça se fait de plus en plus les jeux comme ça, notamment bah, Genshin Impact. Ça fait des années que ça y est sur plusieurs plateformes, consoles.
Oyoverse fait que ça, je crois. Genshin Impact, Honkai Star Rail. Alors, je l'ai pas joué, mais Zenless Zone Zero, je crois que ça s'appelle.
Ouais, bah en fait, je crois qu'ils sont tous à la fois sur PC et à la fois sur les consoles. Excepté la Switch, mais ça c'est un peu plus compliqué. Sur téléphone aussi. Et du coup, moi ça me fait pas peur parce que du coup, par exemple Genshin Impact, j'ai pu tester sur téléphone. Je l'ai testé aussi sur tablette avec GeForce et je l'ai testé sur PC. Donc j'ai eu trois plateformes quand même.
Okay.
Et franchement, ça marche nickel. Bon, alors forcément. Les graphismes sont différents en fonction de la plateforme où t'es sur téléphone. On va pas se mentir, c'est dégueulasse.
Sur PC, je suppose que c'est très beau.
Ah ouais, sur PC, c'est magnifique. Et du coup, Game of Thrones, sur PC, en tout cas là, c'était magnifique. Je pense que sur Android, ça sera un peu moins beau sur téléphone.
Forcément.
Mais ouais, il y a du potentiel, hein, franchement.
Mais vous, du coup, est-ce qu'en jeu, dans Game of Thrones, ça vous tenterait ? Et oui, un jour, il faudra aussi que j'arrête de faire le vieux con et que je teste un jour peut-être les Yoverse. Mais ça, encore une fois, on verra. Plus tard, c'est un autre débat. On continue tout de suite avec la présentation de, je pense, moi, mon jeu coup de cœur, en fait, du Stream Next Fest, qui est Maliki Poison of the Past. Alors, c'est un jeu qui est dérivé du webcomic Maliki, que personnellement, je connaissais un peu et qui, à chaque fois que je le voyais, en fait, j'appréciais. Je savais pas que c'était un webcomic, j'ai toujours voulu avoir les BD, mais en fait, il se trouve que c'est que sur le web, donc, nique, tout simplement. C'est écrit par Souillon, en auteur que je ne connais pas.
Si je peux rajouter
une
petite correction, et je suis désolée, je fais le Actuali. C'est un webcomic, mais Maliki a été adapté en BD aussi.
Ok, bah alors, faudrait que je le trouve, parce que
je crois qu'il y a eu deux tomes.
Ok, il faudrait que je regarde, mais de toute façon, voilà. Tout ça pour dire que, pour le stream Next Fest, c'est quelque chose qui est sorti. C'est développé par Blue Banshee, qui est en studio de jeux vidéo français, et plus précisément breton. Et c'est publié par Ankama, ce qui fait que c'est, pour moi en tout cas, un gage de qualité. C'est un RPG d'aventure tour par tour avec un style qui est assez particulier au niveau, notamment d'un point de vue des graphismes. On s'y fait très vite, en fait très vite, ça sert le propos. C'est un jeu qui est très très coloré, ce qui est vraiment agréable pour être franc. C'est un jeu qui est coloré, qui est mignon, avec une DA qui au final est vraiment très belle. Que ce soit les DA quand on parle avec les personnages ou les DA en règle générale, franchement c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'y ai joué 2 heures. Je pense en tout. Donc je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de la démo. Je ne me souviens plus, ça fait une semaine que j'y ai joué. Mais voilà, on y retrouve plusieurs personnages attachants. On retrouve vraiment l'esprit de la BD, ce qui est agréable aussi. Et c'est une aventure qui déjà envoie du pâté. J'ai l'impression que le synopsis a l'air d'être intéressant. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie d'en savoir plus sur les méchants. Et j'ai envie d'en savoir plus tout simplement sur tous les personnages qui sont là. Parce que certains ont l'air de cacher certaines choses qui me... qui titille ma curiosité, tout simplement. J'attends ce jeu et je pense que j'y jouerai en stream et que je le ferai entièrement en stream. Le seul petit bémol que je pourrais trouver, c'était que peut-être j'ai trouvé les jeux et la difficulté, enfin les combats et la difficulté globale, que ce soit pour les différentes énigmes ou pour les combats, peut-être un peu simples. J'ai pas serré des fesses et pété de stress comme j'aurais pu le faire sur Game of Thrones. Mais après, encore une fois, ce n'était qu'une démo. Mais encore une fois, Mel, toi qui n'y as pas joué, si je me trompe pas, mais par contre, qui m'a vu y jouer, qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors moi, je m'attendais à rien, honnêtement. Pour être honnête, je m'attendais à rien parce que je savais pas trop. Maliki, moi, en fait, je connais que le clip musical qu'ils ont sorti il y a peut-être 7 ans, un truc comme ça. Je sais qu'il y a une BD qui est sortie assez récemment, par contre. Et du coup, ouais, je m'attendais à rien parce que je connaissais pas. Et alors, au début, j'étais un peu effrayée par les graphismes du début. Et puis, au final, on s'y fait très vite, surtout à partir d'un certain moment. Je sais pas si on dirait. À partir d'un certain moment, les graphismes, je trouve que ça passe crème. Et en fait, le graphisme du gameplay me fait penser à Zelda Echoes of Wisdom un petit peu.
Je vois ce que tu veux dire dans le sens un peu bubblehead, tout ça. Ouais, genre, je vois ce que tu veux dire.
Et du coup, pardon.
Non, continue, c'est moi.
Et du coup, ça m'a donné envie d'y jouer. Les chara-designs sont magnifiques, oui. Franchement, vraiment très très belle personne, très très beau personnage. Le jeu a l'air plus sympa que ce que je m'imaginais, et vraiment, il a l'air très mignon aussi. Il a l'air assez cosy. Par contre, effectivement, ça a pas l'air d'être un jeu où c'est pipi culotte comme dans Game of Thrones. Mais ouais, il a l'air sympa. Et voilà. Donc ça m'a donné envie d'y jouer et je pense que ça serait un jeu à suivre de près aussi.
Ce qui est déjà pas mal en vrai en soi pour quelqu'un qui ne s'y attendait pas à avoir autant d'attentes après, c'est plutôt bien. Dernier petite démo que j'ai testé et que Mel a pu regarder, ça va être Solasta. Solasta, ça va être beaucoup plus rapide parce que je n'y ai joué qu'une demi-heure, dans le sens où je l'ai fait en stream et que visiblement ça plaisait pas trop au chat. Donc pour l'instant, j'y ai joué très peu, j'y ai rejoué beaucoup plus. Mais voilà, qu'est-ce que je peux dire de Solasta? Solasta, c'est déjà très beau. C'est un tactical RPG à la Baldur's Gate où on joue en groupe qu'on pourra créer par la suite. On est dans la peau d'orphelins qui sont envoyés sur une nouvelle terre pour tout simplement se battre contre un mal qui apparaît et qui rampe. Vous connaissez le genre d'histoire. Évidemment, ça ne va pas être le truc le plus révolutionnaire, mais ça fait le taf. Ça a l'air de faire le taf. Et personnellement, j'attends beaucoup de Solasta. Pour les personnes qui ont joué à Solasta 1, vous ne serez pas dépaysés. Ça reprend le système D&D 5. Et du coup, on a plus ou moins les mêmes... on a les mêmes mécaniques que dans le 1, sauf que tout est devenu beaucoup plus fluide. Contrairement à Baldur's Gate, en fait, c'est pas en fait votre personnage en personnage qui répondra à tout. En fait, toutes les discussions se font en groupe et chaque membre du groupe aura en fait quelque chose qu'il pourra dire en fonction de son son caractère, ce qui fait que ça joue un peu plus dans le RP et ça permet peut-être un peu aussi d'intégrer tout le groupe là-dedans et de pas juste avoir un main caractère qui est en mode oui en effet c'est moi et je fais ça et je fais ça et je réponds à ça et je dois être bon partout parce qu'en fait et sinon je dois changer de personnage si je veux pouvoir faire quelque chose. Là le groupe est toujours ensemble, c'est un groupe qui est soudé, qui se considère comme des frères et ça, et ça c'est intéressant. Ensuite, les mécaniques du jeu, étant donné que ça reprend vraiment pour le coup le système D&D libre de droit, vous allez retrouver pas mal de classes et pas mal de trucs, mais vous aurez un peu moins de liberté que dans Baldur's Gate notamment. Ça plaît pas. Personnellement, moi ça ne me dérange pas, mais je peux comprendre que ça rebute un peu. Je trouve l'ATH très bien faite par contre. Et dernière chose que je pourrais dire, c'est que personnellement j'en attends beaucoup pour une bêta, c'était très beau, c'était déjà très complet. Et voilà, j'aime beaucoup les déplacements qu'il y a par contre au niveau de Solasta par rapport à Baldur's Gate, pour prendre l'exemple de son concurrent dernièrement. Ça se joue avec des cases, qui est beaucoup plus simple, je trouve, à se retrouver que par rapport à Baldur's Gate où c'est juste une ligne. Mais après, voilà, les goûts, les couleurs, ce sont des choses qui font ça. J'ai aussi appris en me renseignant sur le jeu que, en fait, en fonction des repos longs, de quand tu prends tes repos longs, si tu prends un repos long le matin et que tu te réveilles le soir, admettons par exemple qu'il y a un système de marée, ben la marée sera plus basse, ce qui fait que ça va te libérer des nouvelles zones dans la map et ça va t'en cacher d'autres. Tout ça est assez agréable, est assez cool en fait à découvrir tout simplement, et me donne envie d'en avoir deux. Et je pense que ce sera un autre jeu que je vais faire probablement en stream. L'histoire a l'air d'être cool, le système a l'air d'être cool, et dans l'ensemble le jeu a l'air d'être cool. Donc à mon avis, ce sera le petit truc qui va faire que ça risque d'être le prochain banger. En attendant Baldur's Gate 4, même si j'ai très peur de Baldur's Gate 4, on ne va pas se mentir. Je réfléchis à si j'ai d'autres choses à dire. Non, les graphismes sont beaux, ils ont réussi à rendre les alphelins beaux, et ça franchement j'ai envie de dire chapeau. Est-ce que vous, du coup, cette petite chronique qui a comme tout de même duré 15 minutes, voire entre 15 et 18 minutes, vous a donné envie à jouer au jeu auquel on a fait? Et si oui, et si vous avez participé au stream Nextfest, quel jeu vous a le plus tenté? Je sais que j'en ai d'autres à tester, notamment Solaria et j'ai oublié l'autre. Je sais que certains amis, Coco Zuzur, m'ont aussi conseillé Gruel. Mais voilà, tout ça, c'est des trucs à tester. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ou dans le chat Twitch, parce qu'on sera là quand on va diffuser l'émission, quel est votre jeu préféré que vous avez testé au stream Nextfest. Et tout de suite, on passe à la suite. Eh bien, voilà, c'est la fin de cette chronique. Je rappelle simplement que vous êtes sur Radio G 100.5 FM et vous écoutez votre émission de pop culture, Pop Flash. Sur ce, on se retrouve tout de suite sur la deuxième rubrique, qui est la rubrique Qu'est-ce qu'on lit ? Et aujourd'hui, dans Qu'est-ce qu'on lit ? Encore une fois, on va parler tous les deux. On se retrouve juste après le générique. À tout à l'heure !
À tout à l'heure ! Préparez vos marque-pages, c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on lit avec JR.
Et aujourd'hui, dans Qu'est-ce qu'on lit, deux bouquins qu'on a plus ou moins appréciés. Un qu'on a beaucoup apprécié, un où c'est plus mitigé. Mais étant donné qu'on commence toujours par la mauvaise nouvelle et qu'on finit par la bonne, et mauvaise nouvelle, encore une fois, je mets ça plutôt entre guillemets, vous ne voyez pas, mais je fais des gros guillemets. Et du coup, on va tout de suite commencer par un livre qui est du coup une BD franco-belge, qui est du coup détective, qui est une série du coup de sept bouquins qui nous parlent du coup de détective, no shit Sherlock, et qui nous suivront à chaque fois, en fait, seront des stand-alone qui suivront différents détectives. Pour le coup, on suit la détective qui s'appelle Miss Crumble. C'est publié chez Delcourt et c'est scénarisé par Hona, dessiné par Lou et Gunebo, que je ne connais pas. Et pour ce qui est du synopsis, 1918, au lendemain de la guerre, dans le sympathique village de Sweet Cove, tout respire la douceur de vivre. Ah, Sweet Cove, ses jardins bien entretenus, ses salons de thé au doux parfum de gâteau chaud. C'est pourtant ici que va frapper un mystérieux assassin de beauté, l'occasion rêvée pour notre célèbre institutrice retraitée de s'adonner à son sport préféré, mener l'enquête. Encore une fois, ce n'est qu'un tome parmi la série, ce qui fait que je vais vraiment donner mon avis sur ce tome-là et pas sur la série en entier. Je compte lire d'autres tomes de la série parce que ça a quand même piqué ma curiosité. Mais voilà, comme dit, avis mitigé. Personnellement, j'ai bien aimé, mais là, pas du tout aimé. Elle n'a pas fini en fait de le lire. Personnellement, j'aime beaucoup le style de dessin, l'ambiance Angleterre d'après-guerre. L'histoire prend du temps, ce qui je trouvais plutôt agréable, et j'aime beaucoup, en fait, moi personnellement, l'héroïne. D'un point de vue caractère, j'aime beaucoup, c'est une femme de caractère, et d'un point de vue, on va dire tout simplement, dessin, je trouve que c'est un personnage qui est très beau. Mais malheureusement, pour ce qui est des points négatifs que moi j'ai repéré, c'est qu'il y a une certaine, encore une fois, sexualisation de certains personnages qui n'est pas toujours utile à mon goût. On parlera encore une fois de l'héroïne que moi je trouve très belle, mais encore une fois, c'est vrai que c'est un personnage qui est très sexualisé. Un autre personnage est sur la fin de la BD, très sexualisé aussi, de manière assez inutile en fait. Et surtout, je trouve que même si à la fin il y a un gros plot twist qui, sur le coup, j'ai trouvé agréable, mais en fait, avec un peu de recul, je trouve un peu sorti de nulle part. Je m'explique. Pour moi, un bon plot twist, c'est un plot twist sur lequel on a des indices qui nous permettent de nous dire que, mais en fait, c'était clair parce qu'en fait, quand on regarde ça pouvait le faire. La manière qui est expliquée de comment est-ce que, du coup, l'héroïne a compris comment est-ce que la personne a fait ci ou a fait ça. J'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, un peu trop gros et ça gâche un peu le plaisir, on va dire. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose où je peux me dire oui, si j'avais mieux relu là, j'aurais pu voir qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai un peu l'impression que c'était juste un peu en mode de dire alors en fait, c'était prévu depuis le début, un peu comme Stroheim dans Jojo Bizarre Aventure. Ça n'a pas de sens, sauf que Stroheim, il est drôle, et là, c'est pas vraiment plot twist qui est drôle. Mais voilà, dernier point négatif, ça va être lié à l'humour. Il y a parfois de l'humour qui est bien fait, mais il y a un autre humour que j'ai pas du tout aimé. Certains me diront, oui, mais c'est une blague et tu n'as pas d'humour. Sachez que si vous pensez comme ça, ouais, bah, je peux comprendre, mais on n'est pas ensemble, les gars. Parce que faire une blague uniquement sur quelqu'un qui est en surpoids et toute la blague, c'est « Oh, regardez, elle est grosse !» Et du coup, elle est tellement grosse qu'elle passe pas par les potes. « Oh, regardez, elle est grosse !» Du coup, elle mange comme une porcasse. « Oh, regardez, elle est grosse !» Du coup, en fait, elle en met partout et elle passe son temps à manger tout le temps. « Oh, regardez, elle est grosse !» Quand elle tombe, elle roule. Bah, faut faire cuire un œuf à défaut d'être un peu plus insultant parce que, bah... C'est pas drôle, genre c'est encore une fois c'est ultra genre stigmatisant et ça peut créer des traumatismes chez les gens, on en parlera. Mais voilà, du coup je vais laisser Mel donner son avis et après on en débattra un peu, on a un peu de temps, donc Mel, à toi le micro.
Alors j'aime bien d'habitude les enquêtes, etc. Mais là, j'ai pas réussi à m'y mettre. Alors, j'ai du mal avec le format BD. Pourtant, je lis des comics et je lis des mangas et des webcomics et des webtoons, etc. Mais le format BD, j'ai un peu plus de mal. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu plus de mal. Et là, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Et notamment, dès les premières pages, les blagues grossophobes, en tant que personne... en situation d'obésité, je peux vous dire que ça m'a pas fait rire et que même si c'est des blagues, ça fait rire personne. Enfin, ça fait pas rire les personnes, ça fait pas rire les gens qui sont concernés. Donc c'est pas des bonnes blagues. Je suis désolée de le dire, mais ok, on peut dire bah elle est costaud, elle passe pas dans un des portails. Ok, bon, une fois. Je veux bien admettre que la première fois, ça peut être drôle, si on veut. Je veux bien le tolérer. Mais la blague, elle revient, c'est limite un running gag.
C'est un running gag. Et puis là, à la fin, au début, ils doivent pousser pour la prendre. Puis après, il faut qu'ils prennent une pelle.
Après, ils prennent une pelle.
Puis en pied de biche. Et en fait, le truc, c'est que c'est un mauvais comique de répétition. Et j'ai un peu l'impression que ça a été fait par des gens qui sont vieux.
Ouais, mais en fait, la blague, elle est...
Elle est juste pas drôle.
Le running gag autour de ce personnage, moi, m'a sorti du truc. Et en plus de ça, effectivement, l'histoire prend du temps. Et du coup, l'humour qu'il y a autour, il est plus visible, du coup. Et ça m'a vraiment bloqué. Je sais pas comment expliquer, mais ça m'a bloqué. Du coup, je me suis dit, bon, je vais lire un peu en diagonale pour voir. Et là, qu'est-ce que je vois, même en lisant en diagonale, la blague sur les blagues grossophobes, bon, on va dire les termes, parce qu'au bout d'un moment, il faut dire les termes. Je vois quoi? La personne costaud, qui est d'ailleurs la seule personne grosse dans l'histoire.
Oui.
dans l'histoire, mange salement du chocolat, elle en fout partout, etc. Et c'est moqué,
elle mange comme un porc.
Et franchement.
En fait, le truc là-dedans, c'est que.
Moi, ça m'a saoulé. Honnêtement, ça m'a saoulé. On n'en veut plus, oui, de ce genre de blague, en fait.
Bah, c'est surtout qu'en fait, j'ai l'impression que c'est quand même, même s'il y a des plusieurs petits traits d'humour, c'est une histoire qui se veut assez sérieuse, mine de rien, qui prend son temps et qui est un peu sérieuse. Et en fait, j'ai l'impression que vraiment, les seuls traits d'humour, c'est lié au fait que LOL, elle est grosse. Et du coup, j'apprécie moyennement. Mais je vais quand même faire une petite conclusion. C'est que elle est loin d'être parfaite. C'est une bande dessinée qui, personnellement, pour moi, s'est laissé lire. Mais ce sera pas du tout ma bande dessinée de l'année, je le sais déjà. Je vais probablement finir par l'oublier, et peut-être que ça me permettra de la redécouvrir et peut-être d'en avoir un meilleur avis, mais pour l'instant, voilà, avis mitigé. Je vais lire d'autres standalone pour voir si c'est juste celui-là ou c'est mal maîtrisé, peut-être, tout simplement, parce que je sais que c'est aussi le seul tome de la série de 7 où c'est une femme. Donc je me dis que peut-être juste ils ont du mal avec l'écriture des personnages féminins. C'est pas une critique péjorative ou quoi que ce soit. C'est une possibilité, donc j'en lirai une autre. Mais pour l'instant, la BD, je lui mettrai personnellement 5 sur 10. Mel, je sais que tu veux dire un truc.
Oui, effectivement aussi, je trouve que la représentation de l'héroïne, c'est cliché. Elle est sexualisée, en plus de ça.
Je suis pas d'accord avec toi, mais
moi je trouve qu'elle est un peu sexualisée. Et en plus de ça, elle est super belle. Le personnage est super beau, mais elle est sexualisée un petit peu, je trouve. Et je trouve qu'elle est cliché. Elle est cliché, c'est la femme aigrie, seule. Tu vois, genre, je trouve ça a mal été représenté.
Je suis pas spécialement d'accord avec toi, mais je peux comprendre. J'entends ce que tu dis, tu vois. Et je suis d'accord que, encore une fois, c'est une femme qui est censée avoir 60 ans. Et vraiment, si à 60 ans, tu ressembles à ça.
Ah, j'aimerais bien, ouais.
Dis-moi qui est ton chirurgien esthétique, parce que voilà. Mais, voilà. J'ai un avis moins tranché avec Mel. Je sais que toi, ce sera entre 0 et 3, ta note, à mon avis.
Mais allez, moi, parce que. Les dessins ne sont pas moches, on va pas se mentir.
Oui.
Les dessins sont beaux, hein. Ça, c'est vrai. Et peut-être que quand je serai redescendue, quand j'aurai pris un peu plus de recul, j'essaierai de le relire. Mais ouais, pour l'instant, ça m'a.
Après, voilà, le truc, c'est que pour une fois, je ne peux pas vraiment vous le conseiller de lire. Enfin, je vous conseille toujours de lire le livre si ça vous a intéressé, si l'histoire vous intéresse. Je vous conseille toujours de lire le livre. Après, ce ne sera pas une recommandation de notre part, personnellement, parce que 5,5-6, c'est pas une bonne note. On va pas se mentir. Mais du coup, maintenant que cela est passé, on va tout de suite passer à notre deuxième lecture, qui cette fois-ci a été beaucoup plus appréciée, je pense, oui, chez Pop Flash. Et du coup, ce sera Mel la présenter. Et du coup, Mel, c'est à toi.
Je vais vous parler de Shin Zero, une BD manga qui revisite le mythe des Sentai sous un angle original. L'histoire se déroule 20 ans après la dernière apparition des Kaiju, ces monstres géants autrefois combattus par les célèbres Sentai, ou Power Rangers si vous préférez. Mais le temps a passé et sans ennemis à affronter, les Sentai ont perdu leur statut de héros pour devenir une simple compagnie de service à la personne et aux entreprises. C'est dans ce contexte que Warren, Héloïse, Nikki, Satoshi et Sophia, un groupe de jeunes adultes, endossent le rôle de nouveaux Sentai. Au départ, leur objectif est purement financier, accomplir des missions pour gagner leur vie. Mais rapidement, ils réalisent que l'image des Sentai a bien changé et qu'ils n'est plus considéré comme des héros. Avec Shin Zero, Mathieu Bablette et Guillaume Saint-Jolin, je suis désolée si je prononce très mal les noms, connus pour leurs travaux chez Ankama notamment, nous offrent une histoire qui, sous couvert de super-héros, explore les défis de l'âge adulte. D'un point de vue visuel, les dessins sont superbes, bien que parfois un peu trop chargés à mon goût, mais ce qui m'a vraiment séduite, c'est l'histoire. Bien que l'intrigue prenne son temps pour s'installer, on s'ennuie jamais. Les personnages sont complexes, chacun traînant ses blessures et ses doutes, et on les voit évoluer au fil des pages. L'un des aspects les plus intéressants, c'est la manière dont l'histoire joue avec les codes du super-héros. Au début, l'un des personnages semble être l'archétype du héros parfait, droit, bienveillant, prêt à tout pour aider les autres. Pourtant, c'est justement ce côté trop héroïque qui va causer des problèmes et avoir des conséquences négatives sur son entourage. Si je devais pointer un petit défaut, ce serait la relation entre Satoshi et Warren. Ils passent leur temps à se détester et même limite à faire un combat de coq. Et même si ça sert à l'intrigue, c'est parfois un peu pesant. D'ailleurs, j'ai eu un vrai retournement d'opinion sur ces deux-là. Au début, j'aimais bien Satoshi et pas trop Warren. Et finalement, c'est l'inverse. Même si, je l'avoue, je ne comprends toujours pas toutes les décisions de Warren à la fin du tome. Mais je ne veux pas vous spoiler, donc je m'arrête là. Dernier point que j'ai adoré, c'est l'utilisation des couleurs. Elles ne sont pas omniprésentes, mais elles apportent une vraie dynamique au combat et rendant les scènes très fluides. Shinzero est une très belle découverte que je vous recommande chaudement entre action, introspection et drame humain. Ce premier tome promet une saga à suivre de très près, sachant qu'il n'y aura que 3 tomes. Toi, JR, tu l'as lu ? C'est toi qui l'as lu en premier d'ailleurs, qui m'a fait découvrir. Qu'est-ce que t'en as pensé ?
Moi, j'ai adoré. Je vais acheter les 2 autres tomes hein, parce que j'ai vraiment envie de voir comment ça va évoluer. Contrairement à toi, au début, je trouvais Satoshi un peu emmerdant dans le sens où, comme tu dis, héros parfait, tout ça. Et à la fin, il m'a fait plus de peine qu'autre chose. Tandis que Warren, à la toute fin, c'est bien le Ranger Vert, si je ne me trompe pas. Ah, j'ai envie de le. Je ne le supporte plus. Je ne le supporte plus, j'ai l'impression que c'est un gamin immature qui essaye de prouver quoi que ce soit. Après, c'est un peu le propos de l'œuvre, parce que c'est aussi une œuvre qui parle de la transition vers l'âge adulte. Ce qui fait que ça peut être intéressant de voir comment est-ce que les différentes transitions se font. Ça parle de beaucoup de sujets qui sont importants, et notamment des sujets qui peuvent être durs, donc trigger warning, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait, mais ce n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde.
Oui.
Vraiment pas.
Pas du tout, ouais.
Et du coup, ça peut être très intéressant à lire. Que ce soit pour les adultes ou pour les personnes qui viraient à partir de 18 ans, qui ont déjà vécu, en fait, qu'ont vécu les héros. Et on va surtout y voir. Alors, moi, c'est peut-être encore une fois de la branlette intellectuelle, mais je ne pense pas pour le coup que s'il y a une très grosse critique de notre société. Totalement. Et notamment de notamment des différents gouvernements. Ce qui, encore une fois, est très intéressant parce que c'est un message qui est loin d'être complotiste, mais surtout qui est très souvent pertinent, je trouve.
Oui, et bah, surtout au niveau du traitement des personnes âgées.
Oui.
C'est assez criant de vérité, même s'il y a un petit côté fiction. On va pas spoiler pourquoi, mais il y a un petit côté fiction. Effectivement, ça critique la société et même Satoshi qui, à la base, vraiment... et le héros parfait et Warren l'anti-héros. Satoshi, parce que il veut devenir un super-héros, un héros fantasmé,
enfin, le héros comme, de son enfance,
comme les héros de son enfance, il devient pour moi détestable et dangereux. En fait,
je vois ce que tu veux dire. Je suis pas complètement d'accord encore une fois, mais on n'a pas trop de temps pour débattre malheureusement là-dessus. Mais c'était juste pour compliquer. Je voulais dire un dernier truc. Si je voulais parler du traitement des personnages féminins que je trouve très bon. J'ai personnellement, mon personnage préféré actuellement, les noms des personnages exacts m'échappent parce que je suis très rattaché à leur couleur. Le Ranger jaune est pour l'instant
Sophia
est pour l'instant mon personnage préféré, suivi du Ranger rose. Rose, oui, voilà.
Nikki.
Donc Sophia et Nikki sont pour l'instant pour moi mes deux personnages préférés parce que je trouve que c'est les personnages les mieux écrits. C'est des personnages qui sont tout en nuances, qui sont moins forte tête. Il y a un personnage dont je me fous complètement, c'est le Ranger bleu. Genre pour l'instant, elle est vraiment aux F sur 10. Ses décisions ont l'air d'avoir aucun impact sur l'histoire. Ce qu'elle fait, à part se mettre peut-être en danger elle toute seule, on s'en fout quoi.
Ouais. Effectivement, moi j'aime beaucoup aussi Sophia. Je la trouve très attachante comme personnage. J'aime bien Warren, même si ça a l'air d'être à la fin, il fait un truc que je me dis mais qu'est-ce qu'il fout. Satoshi, moi, il m'a déçu,
oui, oui,
honnêtement.
Voilà.
Et Héloïse, donc la Ranger bleue,
elle
me fait un peu de peine parce qu'elle a l'air un peu paumée. Elle a l'air de...
En fait, moi, il y a un truc qu'elle fait à un moment dans le bouquin, et je crois que tu sais très bien de quoi je parle, où genre, en fait, quand je l'ai lu, et je l'ai lu avec un regard d'adulte, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle branle? Alors, qu'est-ce que tu fous, genre à quel moment tu fais ça, à quel moment en fait tu commences à faire ça sans même te rendre compte à quel point tu peux te mettre en danger. Mais voilà, dans l'ensemble Shin Zero c'est très bon, je pense. Combien tu le mettrais sur 10?
Moi je mettrais un bon 8 sur 10.
Je crois que je lui mettrais un bon 8,5 sur 10 voire 9. C'était une recommandation du Repère des Héros, ce qui fait qu'on l'a, remercie. Vous pouvez par contre le retrouver toujours à la FNAC, à Cultura ou au Repère des Héros. Et sur ce, je crois que ce sera la fin de cette deuxième chronique.
Oui.
On se retrouve juste après la première pause musicale, et pour la première pause musicale, on va vous mettre Die For You, qui est du coup une chanson de Valorant, oui, encore un truc de Riot. Sur ce, on vous dit à tout à l'heure, des bisous tout le monde, et à dans 4 minutes. Des bisous.
À tout à l'heure.
Time slows down when it can get no worse. I can feel it running out on me. I don't want these to be my last words. All forgotten, 'cause that's all they'll be. Now there's only one thing I can do. Fight until the end like I promised to.
Retour, c'était Die For You, c'était du coup un des clips officiels de Valorant, et notamment pour les championnats du monde de 2021. Tout de suite, on se retrouve après le petit générique de Pop and Clap. Aujourd'hui, on parle d'une série, et on va en parler pendant, à mon avis, une dizaine de minutes, mais bon, là, ce n'est pas la question, on y va tout de suite, à tout à l'heure, des bisous. Action, émotion et un peu de popcorn, bienvenue dans Pop and Clap. aujourd'hui dans Pop & Clap, j'avais parlé avec le micro fermé, on va vous parler d'une série qu'on a découvert il y a peu qui s'appelle Young Justice. Donc, Young Justice, qu'est-ce que c'est ? Young Justice, c'est un univers du coup de jeunes héros DC. C'est une série qui a su conquérir beaucoup de femmes grâce à son écriture mature et son action qui est vraiment intense pour le coup. Et surtout, on a un quatuor qui est assez attachant, dans lequel on va retrouver Robin, Aqualad, Kid Flash et Miss Martian. Mais d'où ça vient Young Justice ? Young Justice, c'est une série qui a été, comme dit, c'est une série animée DC qui a été lancée en 2010 et qui a été faite par Brandon Vietti et Greg Weisman. Désolé pour les noms. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, on ne suit pas l'équipe des comics qui s'appelle Young Justice, mais une version un peu plus sombre et plus mature, réaliste des jeunes héros de l'univers DC. Toute l'idée de cette série, c'était d'explorer l'évolution des sidekicks de la Justice League, l'équipe indépendante apportant, évidemment des thèmes plus matures, mais surtout qui va évoluer sous les radars. L'histoire commence quand les héros décident de faire venir leurs sidekicks enfin au hall de justice, et leurs sidekicks se rendent compte en fait qu'on les prend un peu pour des gamins immatures, ce qui fait que ça crée une tension, ce qui va pousser la Justice League à vouloir créer enfin l'équipe qui sera là du coup pour faire des équipes, pour faire des missions secrètes directement liées du coup à la Justice League et sous la direction de la Justice League. Voilà pour ce qui est de l'histoire. Pourquoi est-ce que c'est bien ? Pour plein de raisons. Déjà, l'animation est très clean. Même pour 2010, l'animation est encore très, très clean. On a une écriture qui est mature, qui ne prend pas les enfants pour des débiles, et qui va commencer tout en douceur, sans trop de violence, pour, au fur et à mesure des saisons, augmenter en intensité jusqu'à arriver à la dernière saison, qui est du coup l'apogée de la série pour moi, et qui pour moi est clairement la meilleure de la série. On a, je parlerai des personnages juste après, mais du coup pendant la première saison on a vraiment les débuts et j'ai vraiment l'impression que pour le coup la série évolue avec ses spectateurs. On a, pour ce qui est juste du quatuor de base, on a vraiment des personnages qui sont très 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 bien écrits et qui ont des rôles qui au début paraissent un peu clichés mais qui apprennent à s'étoffer et qui surtout au fur et à mesure que l'univers évolue avec les personnages. Donc on a évidemment Robin qui est du coup Dick Grayson, qui est considéré comme le stratège. C'est le plus jeune du groupe et c'est déjà un leader mais qui n'est pas encore les épaules pour. C'est quelqu'un qui est plutôt sarcastique, qui est plutôt intelligent, qui aime beaucoup utiliser des jeux de mots et qui aura une belle évolution parce qu'on parlera après de l'évolution aussi. On a Aqualad qui est du coup Kaldoram, qui est du coup lui vraiment le leader né. C'est le personnage qui a plus ou moins qui a été créé pour la série et qui est devenu le fan favorite. Et sincèrement, ça ne m'étonne pas du tout. C'est quelqu'un qui est plutôt mature, plutôt réfléchi. Il est complètement à l'opposé de Robin et de Kid Flash et ça équilibre un peu leur trio de base. Et enfin, son lien avec Aquaman, mais aussi avec d'autres personnages qu'on verra plus tard, lui donne une certaine profondeur qui n'est pas désagréable. Et enfin, on a Kid Flash sous les traits de Wally West qui est un peu le cœur du groupe. Sans lui, je pense que le groupe n'aurait pas tenu parce que c'est un peu le personnage le plus drôle et le plus amical en fait des trois. C'est quelqu'un qui a une très forte amitié avec Robin étant donné que c'était son meilleur ami. C'est un speedster du coup, comme tous les speedsters, il a ce côté un peu drôle dans l'univers DC. Et tout son arc narratif, pour moi, c'est un des arcs narratifs les plus marquants de la série. Autre chose que j'aime beaucoup avec la série, c'est que on ne suit pas toujours les mêmes personnes. Enfin, si, on suit toujours les mêmes personnages. Mais en gros, les personnages qu'on a appris à connaître dans la saison 1, qui avait entre 13 et 14 ans, du coup, en 2010. À travers les saisons, à chaque fois, il y a des petites ellipses qui sont plus ou moins l'équivalent qu'il y a entre chaque saison, en fait. Et du coup, les personnages grandissent. Et les personnages grandissent, ce qui fait qu'ils mûrissent, ce qui fait qu'il y a de nouveaux personnages qui sont mis en avant, de nouvelles intrigues qui sont mises en avant. On peut voir comment est-ce que nos personnages qu'on aime ont évolué. Et ce qui fait que pour moi, c'est peut-être une des meilleures, une des meilleures séries de super-héros qui est sortie dernièrement de manière animée. On a plusieurs intrigues qui sont interconnectées, qui sont directement liées au personnage et qui du coup nous permettent de nous attacher au personnage et que quand il y a un risque pour ce personnage, il y a le petit paix de stress encore une fois. Mais voilà, il y a beaucoup en plus les intrigues vont toucher à la fois à la politique, à l'espionnage, mais à plein d'autres trucs, ce qui fait qu'encore une fois, c'est agréable à regarder. Et encore une fois, vous savez quand je parlais de plot twist, là pour une fois, les plot twists sont bien maîtrisés. Il y en a pas mal et toujours agréable à regarder. En conclusion, pour moi, et après on en parlera avec Mel, Young Justice est vraiment une très très bonne série. C'est à la fois simple et compliqué. Et on prend toujours plaisir à la regarder. Nous, on est à la dernière saison. On va regarder la dernière saison. Et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles pour une saison 5, si je ne me trompe pas. Mais on garde espoir. On sait que la série n'a pas été annulée. Alors, plongez-vous dans l'univers de Young Justice. Mais toi, Mel, qu'en as-tu pensé?
Alors, moi, j'ai adoré. Et en fait... ce que j'ai adoré, c'est l'évolution des personnages qui est incroyable. Au début, tu vois, ils sont un peu imbus de leur personne, surtout Robin, et un peu immature parce que pour eux, ce sont les super-héros, ils font un peu les fiers, un peu les coqs, et en fait, ils comprennent qu'en fait, c'est du sérieux, que la Justice League, c'est du sérieux, que c'est pas juste faire les beaux, etc. Et ils comprennent tout l'importance d'avoir des responsabilités de super-héros.
On a oublié de parler d'un personnage, juste, je te coupe, on a oublié de parler d'un personnage qui est tout aussi important. J'ai parlé des trois mecs, mais je n'ai pas parlé de Miss Martian. Miss Martian qui, pour moi, est vraiment le personnage... Désolé, je t'ai coupé. C'est Miss Martian qui, pour moi, est vraiment le personnage qui découvre l'univers en même temps que nous et qui nous permet, en fait, de nous introduire à l'univers. Mais vas-y, Mel, désolé, je t'ai coupé.
Oui, et effectivement, tu as raison. Et en plus de ça, les personnages sont vraiment bien... Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est l'évolution de la série, dans le sens où la première saison, ce sont des enfants. Et du coup, il n'y a pas de sang. Ils ne tuent pas. Il n'y a pas...
Il n'y a pas vraiment de violence.
Il n'y a pas de violence...
Graphique.
La saison 2, ils sont déjà un peu plus adultes. Parce qu'il y a une assez grande ellipse. Et du coup, en fonction de leur maturité, la série évolue graphiquement aussi et au niveau de la violence. La saison 2 est assez violente et la saison 3...
C'est apothéose.
C'est où ils sont encore plus matures et encore plus... en fait, plus ils deviennent adultes, plus ils sont confrontés à la violence, en fait. Et j'ai beaucoup aimé ce prisme-là, en fait.
Et petite chose aussi qui est à noter, après on va devoir passer à autre chose, je vois le temps, je suis désolé.
Oui.
C'est que il y a autre chose qui nous montre aussi que le temps passe et qu'en fait c'est pas un univers qui est tout rose, c'est qu'il y a quelque chose au sein de leur base qui est du coup une espèce de Hall of Fame, des personnes qui sont mortes pendant la série.
Oui.
Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure de la série, ce Hall of Fame, il commence à une personne et à la saison 4, il y en a une quinzaine.
Oui, il y en a beaucoup après.
Il y en a beaucoup et du coup,
saison
voilà.
3, ouais.
Mais je vois le temps qui passe et qui passe et qui ne s'arrête jamais. Je rappelle simplement que vous êtes sur Popflash 100.5 FM et on va se retrouver tout de suite pour une musique du coup qui est du coup de Bibi No Money, qui est une musique qu'on voit beaucoup qu'on voit beaucoup sur les réseaux pour l'instant.
Oui.
Et c'est la musique qui est tout, si je ne me trompe pas. À tout à l'heure. Des bisous. No money, got money, I'm a paradox. Three scoop, creatine, steam room, Equinox. Three bad thoughts giving me triceratops. Three short kings in the squad like Eric. I'ma take your chick like a thief in the night. You off, I'm on, it's a circle of life. I'ma top my shit, yeah, I'm crossing the line. Yeah, I'm BBNO, one of a kind. Mr. Zero, bro, make a typo. My girl got a girl, she a nympho. Ain't too good, I think I need lipo. Prop 1, 2, 3, 4, I'm a psycho. Commas in $1 million,
that's two.
More than I'm giving in fuck,
that's two.
Shotties with a big old butt,
that's two.
Ford you out of sets on a truck. One to the kidney, two to the dome.
That's left, right, go.
Got a roadie for the brunch and a paddock for the show.
That's left, right, go.
Got a big new body and a whip it like a pro.
That's left, right, go.
Got a great main chick and a real bad hoe.
That's left, right, go.
I'll say sunny with a shine, it's sunny with a sweet new honey like ooh la la. Don't want I'm shunning, doing pingers at bunnies. Yo man, I'm sunning cause I'm really that guy. Only on fast, love cheese, went keto. Pat my fur like a pussycat pico. Funko, pop that pussy like Clico. Dust on the table, I ain't talking no Cheeto. Bands on bands on bands on bands. Yeah, pay million.
body, yeah, shaking that jam. Taking that advance. So much cash, it'll put you in a trance.
Et du coup, on est de retour. C'était tout de Baby No Money, la musique que vous entendez beaucoup, notamment sur Instagram et sur TikTok. On lance tout de suite le générique de lancer les dés et on se retrouve juste après. Des bisous tout le monde et à tout à l'heure.
La chronique JDR lance les dés avec JR.
Et aujourd'hui, dans Lancer les dés, de quoi on va parler tout simplement? Aujourd'hui, on va parler, comme je vous avais dit, dans JDR auquel j'ai pas beaucoup joué, mais que je trouve qui est très bien, notamment pour nos amis streamers. Mais quel est donc ce jeu? Ce jeu de rôle, c'est Monster of the Week, à cheval entre Buffy, Supernatural et X-Files. C'est un système qui est simple, un univers qui est très flexible et surtout des monstres à traquer chaque semaine. Je le redis encore une fois, c'est vraiment le JDR parfait pour du streaming, étant donné que c'est très facile d'en faire one shot. Mais qu'est-ce que c'est donc que cela, JR, Monster of the Week? Monster of the Week, c'est un JDR qui a été propulsé par Apocalypse comme Dungeon World ou Urban Shadow. Ça a été créé par Michel Sand et édité par Evilad Productions. C'est inspiré des films télé où une équipe d'enquête affronte un monstre différent à chaque épisode. Je vous ai parlé d'un autre JDR qui était comme ça, qui est un JDR qui s'appelle Holycra, mais ça encore une fois, on en parlera une autre fois. C'est une surprise pour plus tard. Et du coup, le principe, tout simplement, c'est que les joueurs incarne un chasseur de monstres, agent du gouvernement, occultiste, justicier, créature surnaturelle, etc. Et que chaque session est construite comme un épisode de série. Un mystère à résoudre, un monstre à traquer, un climax explosif. Les mécaniques du jeu, c'est basé du coup sur l'Apocalypse Engine. Les joueurs lancent 2d6, plus la caractéristique, et c'est très simple. Si ça fait plus de 10, c'est une réussite complexe. Si c'est entre 7 et 9, c'est une réussite partielle, c'est-à-dire qu'il y a des petits trucs qui ne vont pas. Et si il fait moins de 6, ce qui peut arriver, c'est un échec, et le MJ a le plaisir de pouvoir rendre la situation encore plus merdique. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs archétypes de chasseurs et du coup, c'est très facile de faire ces classes, même si en fait, il peut y avoir beaucoup de trucs. Mais du coup, d'un point de vue purement des chasseurs, le joueur va tout simplement choisir entre le téméraire, qui est du coup en chasseur vengeur à la supernatural, l'expert qui connaît toutes les créatures sur le bout des noix et le paranormal, le monstre, une créature qui lutte contre sa propre nature, ce qui peut être très sympa, je vous assure, et le divin, c'est-à-dire que vous êtes littéralement en ange descendu des cieux pour casser la gueule au monstre. C'est un JDR qui est évidemment très très basé sur l'action et sur l'enquête, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'interrogatoires, de recherches d'indices. Il y a évidemment pendant tout le long en fait du one shot, il y a une jauge de menace qui va monter et qui, s'il arrive pas à exploser, bah vous serez peut-être dans ce qu'on pourrait appeler une merde noire, mais ça encore une fois, ça ne vous arrivera jamais parce que vous êtes des joueurs aguerris. Les affrontements sont souvent très tendus et chaque action peut renverser la situation. Pour ce qui est du coup de sa mise en place, vous avez juste à regarder le playbook et vous pourrez trouver du coup soit de prendre le monstre de votre semaine de l'année, soit en prendre un autre. Du coup, ce qui peut être bien aussi, c'est qu'avec un groupe de potes, tout simplement, vous vous dites, écoutez, on fait une supernatural, on se fait des personnages et on essaie de survivre pendant chaque session. Et si on veut le faire en stream, ça nous permet de faire des one-shots à chaque fois. Mais pourquoi faire des one-shots en stream, Jamy? Parce que ça nous permet que nos viewers qui ne nous suivent pas toutes les semaines puissent, en fait, ne pas être paumé. Moi, personnellement, je fais des campagnes en stream avec la Taverne Héroïste et ça marche très bien, mais c'est parce qu'on a une communauté qui est solide et qui est assidue. Et qu'on a peut-être la meilleure communauté JDR de France, mais ça, encore une fois, c'est autre chose. Évidemment, c'est une blague, mais voilà. Si vous voulez faire de temps en temps du JDR en stream, je pense que Monster of the Week est une des meilleures. Une des meilleures options. C'est un mix parfait entre mystère action et horreur légère. Et on y trouve beaucoup. beaucoup d'inspiration. Bah, comme je l'avais dit au début, on retrouve les inspirations de Buffy, qui est une très bonne série, de Supernatural, qui est une très bonne série aussi, de X-Files, qui est une très bonne série aussi, de Scooby-Doo, qui est la meilleure série, et de Stranger Things, qui est une très 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 bonne série. C'est du coup un GDR qui est aussi assez souple d'un point de vue purement des de l'ambiance qu'on veut donner. On peut très bien faire un GDR qui sera complètement horrifique, ou en univers qui sera plutôt pulp, ou en univers qui sera plutôt horrifique, ou en univers qui sera sombre et dans lequel il n'y aura pas d'espoir et que seule la mort et la guerre existent. Ceci est tout simplement au goût du groupe, mais surtout au goût du MJ qui va parler avec son groupe. Mais voilà, si vous aimez les histoires de monstres, les enquêtes ou tout simplement les histoires d'horreur, Monster of the Week, c'est le JDR ultra fun qu'il faut vous procurer. Oh putain, je pourrais travailler dans la pub, ça y est. Mais voilà, est-ce que vous, ça vous a tout simplement tenté? Je précise aussi que depuis le début, je dis que c'est très bien pour des one-shots, mais ça peut aussi être très bien pour des campagnes, parce que, admettons que vous alliez chercher des loups-garous, et que les loups-garous sont parlés, il ne suffit pas de tuer Jacob, il suffit de tuer toute sa meute, parce que c'est des saloperies de loup-garou. Voilà. Bref, sur ce, est-ce que ça vous a donné envie? Dites-le nous en commentaire. Et du coup, je laisse Mel aussi me dire si elle, ça lui a donné envie.
Moi, ça m'a grave hypé, en vrai. Surtout pour des one-shots. C'est rare qu'il y ait des références à Buffy. Donc, franchement, chaud de ouf.
En fait, les références à Buffy, pour le coup, c'est pas vrai, des vraies références, je pense. Et surtout, c'est le fait que, tu sais, on va retrouver des vampires. On va retrouver pas mal de vampires, pas mal de seigneurs de vampires, tout ça. Mais après, du coup, on pourrait aussi dire, je ne dirais pas ça parce que ça a été fait avant, mais si c'était sorti après, on aurait pu dire que ça a été inspiré par Twilight, et je sais pas si c'est un aussi bon gage de qualité. Est-ce qu'on donne notre avis sur Twilight? Non, on a des très bons amis qui aiment bien Twilight, ce qui fait que chacun ses goûts, on ne juge
mais
pas,
en vrai,
mais
Twilight,
c'est bizarre.
Voilà, bon, bref. Ouais, on en parlera un jour.
Un jour peut-être, mais là n'est pas la question. Je pense que je proposerai très bientôt, alors probablement sur la taverne des rôlistes, encore une fois, ou sur ma chaîne Twitch, Karoubak sur Twitch évidemment, ou sur la chaîne de Kézial. Non, ce sera pas sur la chaîne de Kézial parce qu'elle ne propose pas de JDR. Mais du coup, si un jour vous voulez voir ça, ce sera évidemment annoncé sur les réseaux sociaux, parce que promis, un jour, on reprend nos réseaux sociaux et tout se passera bien. Moi, en tout cas, je vois l'heure et je vois que c'est déjà la fin de notre émission. Je, encore une fois, j'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour encore plein de news sur la pop culture. Mel, le mot de la fin.
Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être toujours là à chaque émission. Et on vous dit des bisous et à dans 2 semaines.
À dans 2 semaines, tout le monde. Des bisous et Pop Flash, c'est fini.
Say you love me, but you just wanna be friends with me. You say you love me, but your work took all your energy. You never listen when I just need an apology. I read our book, this chapter's closing, now we're history. You just took like 20,000 hours from my life, so I deleted all our pictures off my fucking drive, sorry. Thank you for the song, you broke my heart and it's alright. Cause if it's meant to be, it's meant to be. Trusting my affection. Sorry ain't enough and you seek out way more attention. We was playing games but we was sitting different sections. And now I got your stalker and he's clouding up my mansion. You just took like 20,000 hours from my life, so I deleted all our pictures off my fucking drive, sorry. Thank you for the song, you broke my heart and it's alright. Cause if it's meant to be, it's meant to be. Just
Lakers.